15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Du lundi au vendredi, il est mon acolyte pour vous faire du bien, notre docteur maison, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux hépatites virales. Il en existe plusieurs, notamment la A, la B et la C sur lesquelles on va s'arrêter aujourd'hui. D'ailleurs, savez-vous vraiment ce que veut dire le terme hépatite? C'est une inflammation aiguë ou chronique du foie. On va vous expliquer tout ça, comment les prévenir et vous verrez aussi qu'on est capable d'en guérir certaines. On vous dira tout avec notre invité. Nous recevrons le professeur Patrick Marcelin, hépatologue et chercheur à l'hôpital Beaujon à Clichy. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va faire un point sur les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé pour éviter que les bébés aient la tête plate. Ensuite, dans notre chronique Les Mots du Quotidien, on va parler d'un examen, l'électrocardiogramme d'effort, qu'on appelle aussi épreuve d'effort. Comment se déroule ce test et à quoi sert-il? On vous dira tout. Enfin, 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question de pleurs, de crises de larmes, cela peut arriver parfois durant ou après un rapport sexuel. Catherine nous expliquera pourquoi. Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, notre point quotidien coronavirus. D'abord, les derniers chiffres concernant l'épidémie en France. Chiffres communiqués hier soir par le ministère de la Santé. Depuis fin janvier, 285 cas confirmés de coronavirus ont été confirmés. 15 sont actuellement dans un état sérieux, admis en réanimation. Et on compte toujours 4 décès. Alors que l'épidémie de coronavirus s'étend en France, les médecins généralistes qui sont en première ligne face aux patients inquiets ont le blues. Ils affirment ne pas être suffisamment équipés en matériel de protection. C'est ce qu'a pu constater Victor Dolande dans un cabinet de généralistes parisien.
On entre dans le cabinet médical et on voit tout de suite une affiche avec écrit dessus.
Si vous avez de la fièvre, n'entrez pas en salle d'attente, mettez un masque s'il vous plaît.
Une nouvelle mission pour cette secrétaire du cabinet médical, faire le tri entre les malades et distribuer des masques à ceux qui présentent des symptômes. Car beaucoup de patients avec de la toux ou de la fièvre n'appellent pas le 15, contrairement aux consignes données, et débarquent directement chez leur généraliste, comme l'explique le docteur Dominique Damour.
Pour des symptômes de rhinopharyngite ou de syndrome grippal, on est encore en pleine épidémie quand même. Hein. Donc voilà, qui passe par le généraliste, ça me paraît tout à fait normal.
Son collègue, le docteur Serge Gilberg, a donc été obligé de faire des stocks de masques il y a 2 semaines. Il en a récupéré des nouveaux hier chez son pharmacien. Mais il estime quand même que les généralistes ne sont pas suffisamment protégés.
Ce qui manque, c'est des lunettes de protection, éventuellement des gants et éventuellement des blouses.
Sous-équipés donc face au virus et surtout mal informés pour la gestion des malades. Quels patients faut-il surveiller? À partir de quel moment faut-il les adresser aux hôpitaux? Autant de points sur lesquels les médecins généralistes aimeraient avoir des consignes beaucoup plus claires.
Bon Jimmy, dans ce reportage, on voit que les généralistes dont vous faites partie, hein, sont inquiets et que certains trouvent qu'ils ne sont pas assez protégés. Vous en pensez quoi? Vous vous faites uniquement des consultations à domicile? Vous vous protégez comment par exemple?
C'est vrai que c'est compliqué. Pour le moment, j'essaie d'appliquer la mesure du gouvernement, c'est-à-dire la double protection, un masque pour le patient et un masque pour moi.
Masque chirurgical.
Hein. Et donc quand il y a un cas suspect, là j'ai vu ce matin quelqu'un qui revenait d'Italie. Le SAMU avait considéré que ce n'était pas un cas à risque. Néanmoins, j'ai donné un masque au patient, j'en ai pris un pour moi, mais les stocks vont vite être épuisés. On a le sentiment qu'on n'a pas assez de masques, les médecins sont en première ligne. Et puis, il y a une inquiétude vis-à-vis des médecins, puisqu'ils peuvent être vecteurs. Et donc, un médecin qui tomberait malade et qui irait faire des visites dans des EHPAD, dans des établissements où il y a des personnes âgées, pourrait disséminer le virus. Et puis, il ne faut pas oublier que 30% des médecins généralistes sont plus de 60 ans. Et donc, ils font partie, malgré tout, de la population
oui,
risque en
sûr.
Cas de coronavirus, de gens qui seraient un peu plus malades. Donc, on peut comprendre leur inquiétude. Et peut-être que le gouvernement devrait un peu plus les accompagner, les soutenir.
Alors, pour continuer ce point sur le coronavirus, je crois qu'aujourd'hui, vous vouliez faire une mise au point sur un facteur de risque de développer une forme grave du coronavirus, le tabac.
Exactement, c'est des données chinoises qui ont pu être extraites et publiées dans le New England Journal of Medicine, donc une revue très sérieuse, qui montre ce week-end un lien entre le statut tabagique et le risque de présenter une forme sévère de coronavirus ou une forme très sévère qui nécessiterait soit ce qu'on appelle une ventilation artificielle, d'être intubé, soit un passage en réanimation ou encore aboutir au décès.
Et alors donc pour les personnes fumeuses, l'augmentation de ces risques, elle est si importante que ça? Ça montre quoi comme chiffre précisément?
Alors le risque de faire une forme sévère lorsqu'on fume est augmenté de 50%.
Ah oui quand même.
Lorsqu'on s'intéresse aux formes très sévères, aux patients qui vont être hospitalisés en réanimation ou qui risquent de décéder, ce risque augmente lorsque vous fumez de 133%. Attention, cette association n'est pas forcément un lien de cause à effet car dans cette étude, il y a des facteurs de confusion extérieure qui n'ont pas été pris en compte. Et dans ces données, on n'a finalement pas énormément de fumeurs au vu de ce qui se passe réellement en Chine. Néanmoins, ça constitue un argument de plus pour l'arrêt du tabac. Évidemment. C'est peut-être l'occasion de fumer avec des substituts nicotiniques.
C'est l'occasion d'arrêter de fumer.
Exactement.
Pas de fumer.
Oui, d'arrêter de fumer avec justement les substituts nicotiniques qui sont gratuits sur prescription, ou encore la cigarette électronique, soit en consultant votre médecin généraliste, ou soit aussi en allant avec des informations sur tabacinfoservice.com.
Alors, on parle du coronavirus, mais il faut peut-être rappeler d'ailleurs que le tabac, ça augmente le risque d'autres maladies infectieuses que le coronavirus. Hein.
Exactement, parce qu'on parle que de ça, mais ça augmente le risque de plein d'autres maladies. Et là, en ce moment, ça augmente, on sait très bien, le risque d'infection respiratoire potentiellement sévère. On sait par ailleurs depuis longtemps que fumer augmente de 21 à 59% le risque d'être touché par la grippe saisonnière. Et ce risque double lorsqu'on évalue le risque de développer de la tuberculose.
Oui.
Et il triple lorsqu'on parle du risque de développer une pneumonie à pneumocoque ou à légionelle. Donc arrêter de fumer vous permettra finalement de limiter le risque du coronavirus, mais aussi de tout ce qui pourrait potentiellement vous amener à l'hôpital.
Merci Jimmy. Je pense qu'avec tout ça, on a donné encore de bonnes raisons, s'il en fallait, aux fumeurs pour les motiver à arrêter peut-être. Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous reprend son cours habituel avec d'abord le bon conseil du jour du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, il va parler des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour prévenir la plagiocéphalie. Vous savez ce que c'est ? Eh bien, ce sont les bébés qui ont la tête plate. Et puis, on accueillera aussi notre invité, l'hépatologue, le professeur Patrick Marcelin, avec qui nous allons tout vous dire sur les hépatites virales. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans son rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à présent, on passe au bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez d'une mise en garde et de recommandations à la fois dans la prise en charge de la plagiocéphalie, c'est-à-dire le syndrome de la tête plate chez les bébés, et sur la mort subite du nourrisson. Alors je dois avouer que comme ça on ne voit pas forcément le lien entre les deux, mais peut-être vous pouvez nous rappeler déjà ce qu'est précisément la plagiocéphalie.
Alors c'est une association qui avait alerté la Haute Autorité de Santé en 2017 de la sous-estimation du nombre de cas de plagiocéphalie et de ses possibles conséquences. La plagiocéphalie, vous l'avez dit, c'est une déformation du crâne de l'enfant qui est caractérisée par une asymétrie donnant à la tête une forme oblique. On parle communément de bébé à tête plate. Ces déformations crâniennes qu'on dit positionnelles sont bénignes et disparaissent naturellement vers l'âge de 2 ans.
D'accord, mais néanmoins c'est quelque chose qui inquiète les parents à juste titre. Mais moi, c'est vrai que j'avais mon aîné, il avait eu longtemps la tête plate, mais c'est vrai qu'à 2 ans c'est parti.
Hein, exactement.
Donc, ça nous inquiète, mais on a raison quand même.
C'est une source d'inquiétude pour les parents. Pour autant, il faut les rassurer car, comme on l'a dit, ces déformations sont bénignes. Elles rentrent dans l'ordre vers l'âge de 2 ans et les données scientifiques sont rassurantes. Elles montrent qu'il n'y a aucun lien de cause à effet, aucun lien de causalité entre la plagiocéphalie et un éventuel retard neurologique, des troubles ophtalmo, des troubles oculomotaires ou vestibulaires. De toute façon, en règle générale, avec quelques règles simples, notamment de mobilité du cou, on arrive à s'en débarrasser.
Et alors, c'est quoi le lien entre le syndrome de la tête plate et la mort subite du nourrisson dans ces recommandations ?
Eh bien, en fait, les parents s'étaient dit, et parfois même certains professionnels de santé, étant donné qu'on couche les enfants sur le dos,
c'est
ils
la
ont toujours, exactement, on a toujours la tête appuyée de la même façon, et que du coup, il fallait peut-être remettre en cause le couchage sur le dos pour éviter que l'enfant ait la tête plate. Mmh. Or, la Haute Autorité de Santé et le Collège National des Professionnels de Pédiatrie réaffirment avec force qu'il est important de coucher les enfants sur le dos depuis les années 90, cette recommandation a permis de réduire le risque de mort subite de nourrisson de 76%.
Donc très efficace pour prévenir ça.
Impératif de laisser les enfants sur le dos. Néanmoins, au quotidien, il faut dire aux parents qu'il y a quelques moyens simples pour éviter justement cette tête plate. La première, c'est qu'il faut laisser le cou mobile de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il soit tout le temps dans ses cocons. Lorsque vous le mettez à plat au sol, il faut éviter les arches. Il faut disséminer autour de l'enfant des jouets pour qu'il y ait une stimulation à la fois visuelle et auditive et que la mobilité fasse qu'il va moins appuyer sur le cou.
Et qu'il bouge tout le temps la tête un peu de côté différent. En fait.
Exactement.
C'est ça,
Lors de la phase d'éveil, il est aussi possible de laisser l'enfant sur le ventre avec une surveillance parentale régulière. Et puis enfin, la Haute Autorité de Santé rappelle les effets délétères de tout ce qu'on appelle c'est un peu à la
les
mode.
Les coucounes, machin,
voilà,
là, les cale-têtes,
ouais. Les sièges coques, les coussins anti-tête plate, les objets qui sont multipliés dans l'environnement pour permettre de prévenir ce syndrome.
Et en cas de plagiocéphalie, pour terminer rapidement, on consulte qui finalement ?
Alors déjà, on applique ces petites règles. Et puis si ça ne suffit pas, le médecin peut prescrire quelques séances de kinésithérapie. S'il vous plaît, on arrête ces mesures d'aller voir l'ostéopathe pour un ou pour un non qui manipule les bébés sans pour autant savoir ce qui se passe. Donc on le déconseille. Et puis, lorsque les mesures ne marchent pas, on peut adresser l'enfant dans des centres de compétences ou de référence de malformation crânio-faciale et on le fait après 6 mois lorsqu'on se rend compte qu'il y a un réel problème. Donc pas de psychose sur le syndrome de la tête plate.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. Et donc tout de suite nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Patrick Marcelin, hépatologue et chercheur à l'hôpital Beaujon à Clichy.
15h-16h, Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Marcelin.
Bonjour.
Alors pour commencer, professeur Marcelin, c'est quoi très simplement une hépatite? On a dit qu'on allait parler des hépatites, mais juste expliquez-nous, hépatite, ça veut dire quoi?
Une hépatite, c'est tout simplement une inflammation du foie. Alors, on peut distinguer les hépatites aiguës qui vont durer quelques jours, quelques semaines, maximum 6 mois, grand maximum, et les hépatites chroniques qui vont durer plus de 6 mois, des années, voire des dizaines d'années. Évidemment, le danger est immédiat pour les hépatites aiguës, faible mais immédiat d'avoir une hépatite grave. Pour les hépatites chroniques, le danger, c'est en 10, 20, 30 ans, c'est le risque de cirrhose et le cancer du foie.
Jimmy ?
On a combien d'hépatites différentes? Parce que souvent, les gens connaissent l'hépatite B, plus ou moins la C
aussi,
mais est-ce
que
vous pouvez rappeler les autres?
Alors, il y a de nombreux virus qui peuvent donner une hépatite virale. Les plus connus, ce sont les virus A, B et C.
C'est pour ça qu'on s'est arrêté sur celle-là aujourd'hui. On va détailler celle-là aujourd'hui, mais il y en a d'autres.
Les virus D et E sont plus rares. Et puis, il y a plein de virus qui peuvent donner une petite hépatite. Le virus de la mononucléose infectieuse, le cytomegalovirus, l'herpès, des petites hépatites, voire même des hépatites sévères. Mais disons que bon, le tableau est le même. Et ça va faire partie de la recherche de la cause, mais les principaux, ce sont le A, le B et le C.
Et même si aujourd'hui on parle des hépatites virales, quand même un mot, l'hépatite, ce n'est pas toujours causé par un virus.
Tout à fait.
Il y a quoi d'autre comme raison?
Tout à fait. Alors l'inflammation du foie, l'hépatite, peut être liée, donc, comme on l'a dit, à des virus, c'est le plus fréquent. Mais ça peut être lié également à l'alcool, l'hépatite alcoolique, à un toxique, l'hépatite toxique, à un médicament, l'hépatite médicamenteuse.
Et au gras, je crois.
Et au gras. Alors une hépatite qui augmente en fréquence de manière considérable depuis environ 10 ans, c'est la maladie du siècle, c'est l'hépatite, ce qu'on appelle la stéatose hépatite, la NASH.
Le foie gras.
C'est l'hépatite qui est liée à l'inflammation, liée à la surcharge de gras dans le foie gras inflammatoire.
Et le foie gras provoque donc des hépatites, hein, c'est ça?
Oui, une hépatite qui peut évoluer, puisque c'est l'hépatite chronique, vers la cirrhose et le cancer.
Professeur Marcelin, on ne fait que commencer cet entretien. On vous retrouve bien sûr dans quelques minutes.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, on passe donc au vif du sujet et on va proposer de façon alphabétique. C'est quoi l'hépatite A d'abord? Savez-vous que dans l'immense majorité des cas, elle guérit spontanément après avoir quand même provoqué une grande fatigue? Mais comment ça s'attrape d'ailleurs, le virus de l'hépatite A? On vous dira tout, mais d'abord on écoute un peu de musique. C'est le groupe pop-rock Superbus et leur titre Silencio.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Patrick Marcelin, hépatologue et chercheur à l'hôpital Beaujon à Clichy. Professeur Marcelin, c'est quoi les facteurs de risque, avant de rentrer dans le détail des différentes hépatites, mais d'attraper une hépatite? Est-ce qu'il y a quand même des populations qui sont plus fragiles, je ne sais pas, parce qu'ils sont soit en surpoids, soit... Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui existent?
Alors, pour les hépatites virales, non. Les hépatites virales, bon, c'est essentiellement un problème géographique.
C'est ça, c'est les virus.
On va attraper beaucoup plus facilement l'hépatite A qui s'attrape par les eaux usées, les aliments contaminés, lors d'un voyage en Afrique, en Asie. L'hépatite B est beaucoup plus fréquente en Asie, c'est 10% de la population.
Ah oui, c'est énorme.
On a quand même, on considère que c'est de l'ordre de 300 millions de personnes dans le monde qui ont une hépatite B chronique. Mais c'est une transmission, là, pour le B, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Donc ce sont des populations qui sont très touchées. Pour l'hépatite C, le risque maintenant est pratiquement zéro, puisque c'était la transfusion et l'usage de drogues intraveineuses. Donc je dirais que ce n'est pas le profil du patient.
Il n'y a pas de facteur de risque quand c'est viral.
Quand même, si on attrape un virus de l'hépatite plus jeune, l'immunité est moins bonne.
Et on
va devenir plus
facilement,
pas plus grave, mais plus chronique.
Ah,
qui
d'accord.
va durer peut-être toute la vie.
Donc chez les enfants, attention.
Attention pour l'hépatite B et l'hépatite C. Mais chaque hépatite est différente.
Alors justement, on va procéder par alphabétique, c'est facile du coup, avec ces hépatites, puisqu'on a dit qu'on parlerait aujourd'hui de A, B, C. On va commencer donc par l'hépatite A. Celle-ci, on l'attrape donc via l'alimentation, vous l'avez dit, via l'eau contaminée, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Les aliments, l'eau contaminée, donc c'est l'hépatite du voyageur.
C'est rare en France, on est d'accord, enfin, d'être contaminé en France. Quoi.
C'est rare en France, ce sont souvent des sujets qui reviennent en effet de vacances, puisque l'incubation est de l'ordre de 2 à 3 semaines. Donc c'est l'hépatite qu'on risque de faire au retour de vacances en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. C'est la plus fréquente des hépatites virales. C'est généralement bénin. Ça guérit pratiquement toujours. Mais attention, le risque, c'est 1 cas sur 1000, surtout les formes ictériques, la jaunisse en cas de jaunisse. C'est l'hépatite fulminante, avec risque très forte mortalité. 80% si on ne fait pas de transplantation hépatique en urgence.
Ah oui, quand même.
Très rare, mais à surveiller de près.
Jimmy ?
Les quelques rares cas d'hépatite A que j'ai pu diagnostiquer, c'était soit des gens qui avaient la jaunisse,
l'ictère, vous en avez diagnostiqué en
aux
France,
urgences,
vous, hein,
mais ouais. qui revenaient souvent, c'est assez facile, c'est, vous l'avez dit, celle du voyageur, ils viennent du bassin méditerranéen, du Maghreb, par exemple, et puis ils reviennent fatigués, c'est aussi un des symptômes. La fatigue, c'est un des signes d'hépatite, et c'est un signe parfois qui est difficile à extraire, puisqu'on est tous un peu fatigués.
Oui, parce que 90% des patients qui font une hépatite aiguë A, une hépatite aiguë virale en général, ils n'ont pas de jaunisse. Alors, bien sûr, devant une jaunisse, on pense à l'hépatite.
On pense au foie. Voilà. On est jaune,
devant un syndrome grippal, un peu de fièvre, un peu de nausée, un peu de troubles digestifs, on ne va pas y penser. Et d'ailleurs, quand on teste la sérologie de l'hépatite A pour voir si des sujets ont rencontré le virus d'hépatite A, ont fait une hépatite A dans leur vie, on se rend compte qu'il y a environ 10% des Français qui ont rencontré l'hépatite A sans s'en rendre compte. Ils sont immunisés, tant mieux. Je rappelle quand même qu'il existe un vaccin très efficace contre l'hépatite A, qui est obligatoire dans le personnel de santé et qui est recommandé pour les voyageurs.
Allez, on va passer à l'hépatite B du coup.
La
celle-ci,
B,
c'est des voyages, on a fini les voyages, on passe à l'hépatite B. C'est l'ennemi numéro 1 dans le monde, hein, celle-ci, je crois.
Oui, c'est l'hépatite B. Le risque, ce n'est pas l'hépatite aiguë, c'est l'hépatite chronique. Comme on l'a dit, 300 millions de porteurs du virus B dans le monde.
C'est dingue,
ont des
ce chiffre, hein, 300
oui.
millions.
Alors, c'est dû au phénomène que la transmission se fait à la naissance, c'est une transmission de la mère à l'enfant. Donc, les mères qui sont porteuses du virus B, surtout en Asie et en Afrique, vont transmettre à leurs enfants à la naissance, ce qui entretient, si vous voulez, 10% de la population dans certains pays comme la Chine et comme dans l'Afrique subsaharienne.
Jimmy ?
Donc, transmission de la mère à l'enfant dans certaines populations, mais ici, la transmission, elle se fait un peu différemment. Il y a d'autres modes de contamination, notamment de l'hépatite B, qui est responsable un peu plus de maladies ici.
Oui, alors la transmission mère-enfant en France, elle est prévenue par la vaccination systématique à la naissance.
Ça fait partie des obligatoires aujourd'hui hein, pour les bébés nés
dépistage
depuis 2018.
Dépistage systématique des femmes enceintes et les femmes enceintes qui ont l'hépatite B.
On les soigne.
On vaccine, on soigne les femmes et on vaccine systématiquement le nouveau-né dès la naissance. C'est-à-dire on le protège et il ne va pas faire une hépatite B. Il ne va pas devenir porteur chronique du B. Donc le problème de la transmission mère-enfant,
c'est à peu près réglé chez nous.
Dans le pays, est réglé, pas dans tous les pays bien sûr.
En France, hein, c'est ce
en France, en Occident.
Mais la voie sexuelle, par contre.
Alors c'est une MST. C'est-à-dire que la voie sexuelle, la transmission de l'hépatite B, c'est très contagieux. C'est plus contagieux que le VIH.
Ah oui, c'est dingue
ça. Un sujet porteur du virus de l'hépatite B a 10 millions, 100 millions, voire 1 milliard de virus par millilitre de sang. Il y en a dans les sécrétions génitales. Donc un porteur du virus B peut, pas toujours, mais peut être extrêmement contagieux au point de vue sexuel. Mais on a l'arme de la vaccination. C'est-à-dire que chez un sujet, d'abord, la vaccination est recommandée à tous les... obligatoire dans l'enfance.
Et après, à tous les âges de la vie, non
Et l'âge jeune où il y a le risque de transmission par voie sexuelle, mais aussi par drogue intraveineuse. Hein. Donc, il y a la prévention qui fonctionne maintenant très bien, puisqu'on sait que le vaccin est parfaitement inoffensif et très efficace.
Merci, professeur Marcelin. On va s'arrêter là quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à vous parler des hépatites. On va terminer avec la B, évidemment, mais surtout, on va faire le point sur l'hépatite C, pour laquelle une révolution thérapeutique s'est jouée ces dernières années. Un traitement permet d'en guérir complètement. On va vous expliquer tout ça juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Patrick Marcelin, hépatologue et chercheur à l'hôpital Beaujon à Clichy. Professeur Marcelin, on va reprendre notre focus donc, sur les hépatites et plus précisément terminer ce qu'on était en train de dire sur la B. Il y a donc contre l'hépatite B un vaccin qui est obligatoire maintenant pour les enfants qui sont nés après 2018 et recommandé pour tous. Mais ce vaccin, est-ce qu'il est sûr? Parce qu'il y a eu pas mal de polémiques autour de ce dernier.
Oui, parfaitement sûr. Il y a eu un doute à un moment qui était totalement dissipé depuis bien longtemps. Des études aux États-Unis, en Europe, sur des centaines de milliers de personnes vaccinées ont montré qu'il n'y a pas plus de problèmes chez les gens vaccinés que les gens non vaccinés.
C'était la sclérose en plaques, hein, notamment.
Oui, on parlait de sclérose en plaques, c'était tout simplement une alerte, une fake news, hein, d'une certaine manière. Et ça fait beaucoup de mal au vaccin. Et ça, on a vu des patients faire des hépatites B parce qu'ils avaient refusé le vaccin. Donc je trouve que c'est criminel, d'une certaine manière, de ne pas vacciner ses enfants, c'est les protéger contre l'hépatite B, les protéger contre la cirrhose et le cancer du foie.
Quand même, juste ça. C'est pas mal de rappeler ça, Jimmy. Hein,
vous oui, êtes, c'est pas mal, c'est vrai. Mais après, c'est
une MST.
Oui, exactement, une MST. Ouais. Et une fois qu'on est vacciné de l'hépatite B, pas de rappel plus tard, l'immunité, elle est stable et elle est durable.
Alors, c'est un vaccin extrêmement efficace qui va durer toute la vie. Il va stimuler des anticorps, donc pas de rappel nécessaire, sauf chez les patients immunodéprimés. Mais en règle générale, non, on est tranquille.
Alors bon, si on n'a pas été sérieux, qu'on n'a pas fait son vaccin, et que donc malgré tout, on attrape l'hépatite B, aujourd'hui en France, admettons, par voie sexuelle par exemple, ça soigne quand même l'hépatite B ?
Oui, alors on ne guérit pas l'hépatite B. On n'arrive pas à éliminer complètement, à détruire le virus, un virus qui est très coriace. Par contre, on peut le bloquer et on peut éviter la maladie du foie. On a des traitements qui existent, qui sont très bien tolérés, un comprimé par jour, traitement très simple.
Mais à vie ?
C'est pratiquement à vie actuellement, parce qu'on a peur d'arrêter. Si on arrête, on a souvent des rechutes. Donc c'est un traitement qui dure des années, des années, des années, et qui permet de stabiliser, le foie redevient normal. Donc on a les moyens vraiment d'éviter toute complication. Et on travaille, la recherche que l'on fait actuellement, c'est de trouver de nouveaux antiviraux qui détruisent complètement le virus
pour
avec
s'en
la
débarrasser.
Guérison.
Et vous vouliez dire un mot, je crois, sur la D, même si on a dit qu'on ferait que ABC, parce que la D, il y a un rapport avec la B. Hein,
oui, alors le virus Delta, c'est un virus qui est très étonnant, c'est le plus petit virus humain. C'est un virus qui en fait, ressemble au virus des plantes. Et on ne sait pas pourquoi, c'est un virus parasite de l'hépatite B. C'est-à-dire que quand on a une hépatite B, on peut attraper le virus Delta, ce qu'on appelle la co-infection B-Delta. Le virus Delta se nourrit, utilise les antigènes de l'hépatite B pour se multiplier.
Donc on a la B et la D.
C'est un parasite du B. D'accord. Alors donc quand on a une hépatite B, il faut toujours vérifier l'hépatite Delta. Et le Delta, c'est plus dangereux, c'est plus rare, c'est plus dangereux que l'hépatite B toute seule. Ça ajoute de la gravité, un risque plus important de cirrhose, cancer du foie. Et de manière intéressante, au dernier congrès des pathologies à Paris en janvier, les premiers traitements contre l'hépatite Delta sont arrivés, les premiers antiviraux.
Donc une très bonne nouvelle.
Et voilà, très bonne nouvelle, parce qu'on pourrait ralentir, voire guérir dans les années qui viennent, l'hépatite Delta.
On aime avoir des bonnes nouvelles comme ça dans son rendez-vous. Merci, professeur Marcelin. On va passer à l'hépatite C à présent. Une hépatite qui a été découverte finalement assez récemment, hein, je crois, c'était en 1989.
Tout à fait. C'est un virus qui est resté caché, qui nous a échappé pendant très longtemps. Et ce virus qu'on appelait non anombé, bon, on savait qu'il y avait une troisième hépatite, c'était ni la A ni la B,
Avant de s'appeler la C, elle s'appelait non anombé. D'accord.
Voilà, c'était la non anombé. On avait gardé le C pour ce virus, et puis on le cherchait, et les Américains, dans la course à la recherche de ce virus, l'ont trouvé en 1989, ce qui a permis d'une part des tests diagnostiques, et on s'est rendu compte que c'était une maladie fréquente. En France, c'était de l'ordre de 1% de la population à l'époque.
Oui, quand même,
ça touchait essentiellement les transfusés, les usagers de drogues intraveineuses, puisque le virus...
Les transplantés aussi, hein, c'est ça, je crois.
Les transplantés, tous ceux qui avaient été opérés, etc. Puisque le virus est transmis par le sang ou le matériel contaminé, il n'est pas transmis par voie sexuelle, il n'est pas transmis de manière comme l'hépatite A par les aliments. Donc c'est un virus particulier. Et on a des traitements qui guérissent l'hépatite C.
On va en parler, Jimmy.
Donc vous l'avez dit justement, transmission essentiellement chez les usagers de drogues faites par voie par seringue, qui ne vont pas utiliser de matériel à usage unique, parce que si on fait attention, bon, on ne va pas encourager les gens,
jamais,
mais d'où l'importance aussi de sensibiliser les gens à si vous utilisez des drogues, néanmoins c'est des seringues stériles et vous la jetez, on ne la balance pas comme ça. Mais est-ce que certaines pratiques sexuelles peuvent être quand même à risque d'hépatite C ? Est-ce qu'on peut quand même attraper l'hépatite C par un rapport sexuel ?
Oui. C'est rare dans les rapports hétérosexuels. Il y a eu des épidémies d'hépatite C dans des populations d'homosexuels avec des pratiques à risque. Au fond, un rapport sexuel hémorragique, traumatique, puisque le virus passe par le sang, est un facteur de risque.
Oui, voilà, à partir du moment où il y a
donc
du sang...
Donc, quand on dit la transmission sexuelle, si on regarde un couple, un patient que l'on suit depuis des années et des années, on fait bien sûr le test systématique chez le conjoint, et... généralement, c'est négatif. Mais il faut quand même, on ne peut pas dire que le risque est zéro.
L'hépatite C, donc, c'est une maladie du foie également. Mais par contre, je crois que si on est contaminé un jour, on peut garder cette maladie en soi de manière très silencieuse pendant 20-30 ans, hein, c'est ça ?
Oui, c'est tout le problème des hépatites. Des hépatites chroniques, c'est-à-dire des hépatites qui vont durer pendant des années, des dizaines d'années. Le foie est silencieux.
Il ne se plaint pas.
Et il ne faut pas attendre de sentir son foie, avoir des douleurs. D'ailleurs, souvent, quand on a mal au ventre, ce n'est pas le foie.
On a mal à l'estomac, aux intestins.
Et la crise de foie, ça n'existe pas. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Le foie est silencieux, il souffre en silence. Et donc, sans s'en rendre compte, on peut être porteur du virus C, du virus B, ou avoir une hépatite alcoolique, ou une hépatite liée à la graisse. Silencieusement, ça peut évoluer vers une cirrhose et vers un cancer du foie. Et malheureusement, on voit encore des patients arrivés qui ont ignoré leur maladie.
Oui, c'est ça, c'est que parfois vous avez des patients qui viennent en consultation pour une histoire peut-être adressée par le généraliste pour une cirrhose du foie ou une insuffisance hépatocellulaire ou un cancer et vous diagnostiquez de façon rétrospective une hépatite passée inaperçue parce que celle-ci n'a jamais parlé.
Et on considère actuellement que plus de la moitié des hépatites B, on ne les connaît pas. Les patients se promènent dans la nature avec leur hépatite B sans le savoir. On considère qu'il y a au moins encore 70 000 patients en France qui ont une hépatite C chronique, qui ne savent pas.
Ah oui, c'est énorme, ce
chiffre. Et je ne parle pas des autres cas d'hépatite, bien sûr, les hépatites alcooliques, etc. Donc, on peut considérer qu'en France, une personne sur cinq souffre d'un problème de foie, un foie qui souffre, pas forcément gravement, il peut être traité. Alors, pourquoi ne pas faire un bilan très simple, on en parlera.
Faire doser ses transaminases, c'est tout simple.
Il n'y a pas de souffrance hépatique sans transaminases élevées. Si les transaminases élevées, ce n'est pas forcément grave, mais ça attire l'attention, c'est un signal d'alerte.
C'est vrai qu'on pense à faire sa glycémie, son cholestérol, mais les transaminases, pas systématiquement, on devrait le faire.
Les transaminases, c'est la glycémie du foie. C'est-à-dire, mon foie va bien ou pas bien.
Et néanmoins, d'avoir les transaminases un peu élevées ne veut pas dire que vous avez un cancer, mais qu'il faut faire des explorations, ne pas minimiser ce symptôme.
Voilà, tout à fait.
La bonne nouvelle, quand même, dans l'hépatite C, c'est que si longtemps vous avez eu du mal à soigner ces hépatites, depuis 2014, tout a changé.
Oui. Alors, 2014, donc, c'est l'arrivée des premiers antiviraux directs. Ces antiviraux directs bloquent la multiplication du virus. Le fait qu'on ait trouvé le virus, qu'on l'ait identifié, qu'on ait pu le mettre en culture, a permis de mettre en évidence ses points faibles, le talon d'Achille. Et les molécules actuelles sont extrêmement efficaces, n'entraînent pas de résistance. 99,9%.
Oui, bon, 100%, mais vous ne voulez pas le dire.
100%,
mais...
Non, en médecine, on ne peut jamais dire.
Mais bon, 99,9%, on va considérer que c'est une guérison à tout coup, à tous les coups.
Et ce sont des comprimés, 2 à 3 mois.
Rien de très compliqué.
Ça se fait à la maison, c'est très simple. Le médecin généraliste peut les prescrire maintenant.
Et oui, et là, ce n'est pas à vie, vous dites 2-3 mois. Enfin, je crois que c'est entre 8 à 10 semaines, on est guéri, quoi.
Voilà,
c'est ça.
Exactement. Jusqu'à 12 semaines maximum. Et on est guéri définitivement, c'est-à-dire que le virus est détruit. Il n'y a plus de virus dans l'organisme, ça, on l'a vérifié. Et donc, plus de risque d'évolution. On prévient la cirrhose, on prévient les problèmes.
Génial.
Je dois vous avouer que j'apprends quelque chose. Les médecins généralistes peuvent prescrire ce genre de traitement et on n'est pas obligé de passer par le milieu hospitalier.
Si parce que ça a été le cas au début quand ce traitement est arrivé. Il me semblait qu'il fallait aller voir que des services spécialisés.
Tout à fait. Alors, pour le fait que d'abord, c'est un traitement qui coûte relativement cher.
Oui, c'est vrai.
Mais comme il est très efficace,
ça fait
100%.
Cher à peu près combien d'euros
Actuellement, c'est autour de 20 000 euros un traitement.
Une personne, c'est 20 000 euros quand même. Mais bon, ça vaut le coup, on est guéri.
Et sans le suivi, les examens, etc. Mais enfin, le traitement s'est simplifié. Le traitement est très efficace, donc qu'est-ce que ça vaut qu'une guérison Non seulement on prévient les problèmes hépatiques, mais on s'est rendu compte qu'on améliorait beaucoup l'état de santé des gens.
Ils
se sentaient mieux,
moins
de fatigue, plus d'énergie, un meilleur moral.
Et puis ils évitent le cancer, ils évitent
la cirrhose. Parce que le virus C a des effets, non seulement sur le foie, mais sur le... C'est une maladie systémique.
Oui.
Donc éliminer le virus C, ça fait du bien pour tout, pour les manifestations, qu'elles soient cardiovasculaires ou autres. Donc, c'est un traitement qui est cher. Et maintenant, un accès au traitement très facilité.
Chez le généraliste, c'est possible. Oui. C'est bon à savoir. Jimmy ?
Attention, par contre, si on guérit de l'hépatite C, on peut malgré tout, si on a des comportements à risque, la redévelopper. Ce n'est pas pour la vie, on n'est pas tranquille.
Il n'est pas immunisant, ce traitement ?
Alors, il est immunisant, mais pas totalement, dans la mesure où il y a différents types de virus. Il y a le C de génotype 1, 2, 3, 4, 5, 6, si on en trouve
en
tout, peu importe. Donc, on peut être réinfecté par un autre virus que celui qui a guéri. Ça, on a vu des cas. C'est rare et c'est surtout, bien sûr, c'est chez les usagers de drogue intraveineuse qui sont exposés éventuellement à notre virus. En dehors des usagers de drogue intraveineuse, on n'a pas observé...
De cas de réinfection.
Non, parce que maintenant, avec les mesures de lutte contre l'infection dans les soins médicaux et puis la transfusion, on n'attrape plus le virus C en dehors vraiment des facteurs de risque.
Alors si maintenant on en guérit l'hépatite C, le message le plus urgent néanmoins, c'est le dépistage. Vous
dites
qu'il y a, je ne sais pas, 70 000, 80 000 personnes qui l'ont et qui
l'ignorent
en France.
Oui, on ne sait pas, probablement au minimum 70 000, peut-être davantage, parce qu'il y a beaucoup de patients qui, comme on l'a dit, la maladie est silencieuse, il est possible qu'on ait encore plus de 70 000 cas, et certains peuvent être sévères, donc pourquoi ne pas faire le test?
C'est une prise de sang, c'est
une prise de sang.
Et on peut imaginer, je crois que votre objectif à vous, hépatologue, c'est éradiquer l'hépatite C en 2025.
Alors,
vous y croyez vraiment?
Écoutez, il faut y croire. Il faut y croire, parce que si on ne se donne pas un objectif...
Vous savez,
dans le monde, on a, l'objectif, c'est 2030. Et on a dit qu'en France, comme on est en avance...
On est ambitieux.
On est ambitieux, voilà, on est efficace. On s'est fixé comme objectif 2025. Mais notre objectif, c'est 90% de diagnostic et de traitement. Pourquoi pas ? Essayons.
Merci beaucoup, professeur Marcelin, d'être venu sur notre plateau, nous donner aussi toutes ces bonnes nouvelles donc sur le terrain des hépatites. Néanmoins, on l'aura compris, l'urgence reste quand même le dépistage. Merci encore.
Je vous en prie, merci.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à un examen, l'électrocardiogramme d'effort, ce qu'on appelle aussi l'épreuve d'effort. Savez-vous en quoi ça consiste ? À quoi cela sert-il ? On va vous expliquer tout ça juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur un examen qui est réalisé assez fréquemment. Savez-vous ce qu'est l'électrocardiogramme d'effort, l'épreuve d'effort ? Comment se déroule ce test à visée cardiologique ? Est-ce douloureux ? Et à quoi ça sert ? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Il faut déjà réussir à le dire. Un électrocardiogramme d'effort.
Ça serait plutôt pour mesurer un peu la capacité cardiaque ou autre qu'on peut avoir quand on fait un effort.
On met des électrodes souvent au niveau du cœur, au niveau des chevilles, au niveau des poignets. Le test d'effort est fait soit sur un vélo, soit en fait sur un tapis. Du coup, on pousse en fait le cœur et on le fait monter. Après, on le calme, on refait partir. C'est pour voir, voilà, du coup, s'il n'y a pas une anomalie au niveau du cœur.
Les plus raisonnables font faire du vélo ou de la course. Les plus vicieux, autre chose.
Peut-être qu'on peut détecter l'asthme ou des choses comme ça.
Ça, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de cœur.
Alors, je pense que c'est pour détecter les faiblesses au niveau du cœur.
Donc, c'est plutôt sur les personnes âgées qui, en général, ont éventuellement des insuffisances cardiaques.
Bon, Jimmy, on fait le point à présent donc sur un examen, l'ECG d'effort, l'électrocardiogramme d'effort. Pouvez-vous nous expliquer précisément ce que c'est ?
Alors, certains l'ont dit, effectivement, c'est un électrocardiogramme.
On comprend un peu dans le nom. Hein, voilà.
Exactement. Ouais. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau électrique et au niveau de votre cœur lorsque vous le sollicitez un peu plus. Puisque l'électrocardiogramme, on peut avoir l'habitude de le faire, mais l'électrocardiogramme d'effort, ce n'est pas que pour les vieux, on a entendu la personne âgée, on peut l'utiliser dans plein de situations. Quand il y a un doute, c'est-à-dire que vous avez un patient qui décrit des symptômes à l'effort, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose,
j'ai un petit
point,
exactement.
Mais ce n'est pas tout à fait typique pour aller d'emblée voir les artères, voir la coronarographie. Lorsque vous avez fait un infarctus, et qu'on a reperméabilisé vos artères qui ont été bouchées, on aimerait savoir comment est-ce que vous adaptez à l'effort. Et puis, on prescrit souvent après 50 ans et parfois après 40 ans, lorsqu'on décide de reprendre une activité physique un peu intense, un peu soutenue.
Type un marathon, quoi.
Vous faites
c'est
le marathon,
ça,
vous avez 40 ans, vous n'avez pas fait
avant
de sport plus
le
longtemps.
Faire, quand même,
peut-être mieux vous faire cette épreuve d'effort pour éviter justement des complications et de vous traiter en amont.
Alors ça se fait où cette épreuve d'effort ? J'imagine qu'on ne fait pas ça dans son salon avec son vélo d'appartement.
Non, effectivement, ce serait compliqué, sauf si vous m'avez sous le coude et puis
non,
dans ces cas-là,
ça, mais non, malgré tout. Même ça, non.
Donc ça se fait souvent en milieu hospitalier ou dans des cliniques, c'est suivi par un cardiologue, vous avez une seconde personne qui est souvent une infirmière qui est là pendant l'examen, on fait ça dans une pièce ni trop chaude ni trop froide. Et puis, on a un tapis roulant, soit un vélo, un lit pour se reposer, du matériel de réanimation.
Donc
car les patients à qui on fait l'examen sont à risque de boucher une artère lors de l'effort.
Au cas où, en
précaution. Donc, il y a quand même un environnement qui est sécurisé.
Avant le test en lui-même, avant d'enfourcher le vélo, je ne sais pas, dans les jours qui précèdent, il faut se préparer, il y a quelque chose...
Éviter de venir à jeun, il faut manger plutôt normalement, dans les 2-3 heures qui précède le test. Si vous avez un traitement, prenez-le comme d'habitude, sauf contre-indication médicale. Évitez de fumer. Et puis, il faut mettre une tenue adaptée.
Bah, du c'est sport, le moment. Quoi, hein, donc on met les baskets.
On met des running, on met un t-shirt, on met un short où on est confortable.
Quoique le t-shirt, il ne tiendra pas à grand-chose parce qu'on l'enlève, hein, je crois, le t-shirt.
Exactement. Ouais. Bah, parce qu'à ce moment-là, on va vous demander de vous mettre torse nu, mais pour la bonne cause. Chez les hommes où on soutient-gorge, on va vous mettre des petits électrodes au niveau du thorax. Commencez par un premier électrocardiogramme de repos. Et puis, les choses s'accélèrent.
Alors ça y est, on y va. C'est parti, j'ai mis les baskets. Qu'est-ce qui va se passer ? On va transpirer un petit peu quand même.
Oui, un petit peu comme dans la salle de sport où je ne vais jamais. Durant 10
ça,
à 30 minutes,
pas,
on commence à marcher tranquillement pour voir comment votre cœur s'adapte. Et puis, on va augmenter petit à petit l'intensité et la durée de l'effort.
Et à ce moment-là... Et on va pousser au maximum, je crois. Hein,
exactement.
C'est le but, hein.
On cherche à avoir une fréquence maximum théorique de votre cœur qui est de 220 moins l'âge. On essaie d'atteindre cette zone-là. Et puis, développer une puissance suffisante pour démasquer des troubles cardiaque et de voir s'il se passe quelque chose. L'épreuve peut être arrêtée lorsque l'effort
quand
est trop difficile,
peut plus, ouais, c'est
on en peut plus, ou lorsqu'il y a des anomalies. Et à partir de ce moment-là, si jamais vous décrivez une gêne ou autre, eh ben on fera d'autres examens, la coronarographie, pour voir vos artères.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de pleurs, de crises de larmes. Et oui, cela peut arriver parfois durant ou après un rapport sexuel. Catherine nous expliquera pourquoi. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, on fait une aide d'honneur pour celle qui rentre à l'instant dans ce studio. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de Benoît. Je vous la lis très régulièrement lors de nos rapports sexuels. Ma copine se met à pleurer. Elle me rassure en me disant qu'il s'agit de larmes de joie, d'extase, mais cela me met vraiment mal à l'aise. J'aimerais votre avis. Alors Catherine, d'abord, c'est fréquent comme ça de pleurer pendant un rapport sexuel ?
Oui, il y a des réactions qui sont des réactions assez curieuses. Ce n'est pas pendant le rapport sexuel nécessairement, mais qui est au moment de la jouissance notamment, qui peuvent être du rire, un éclat de rire, ce qui paraît très curieux aussi.
Ah oui, il a peur qu'on se moque de lui, là, je
voilà,
pense.
Voilà, exactement. Et ça peut être effectivement, tout d'un coup, pleurer à chaudes larmes.
Des larmes de joie, elle dit, là, sa copine. Ouais.
Exactement.
D'accord. Ah, oui. Donc ça arrive, effectivement. Je pensais que ça me paraissait très surprenant, mais pourquoi pas. D'accord.
En fait, c'est une émotion qui, tout d'un coup, se dégage. De même que quand on a une jouissance, on émet des sons que l'on n'a pas contrôlés. On ne se met pas au diapason d'un chant extraordinaire. Il y a des sons qui sortent de nous. C'est un moment aussi où d'autres émotions, que ce soit le rire ou les pleurs, peuvent être d'actualité à ce moment-là.
Je vois Jimmy qui hausse les sourcils. Vous connaissez les larmes de joie, Jimmy ?
Oui, non, bon, c'est un peu perturbant, mais là il parle de pleurs pendant le rapport sexuel. Est-ce qu'on peut considérer ça de la même façon qu'après un rapport sexuel, après un orgasme par exemple, est-ce que ça a la même valeur ?
Pendant et après, vous voulez
pendant
dire
et après.
Non, quand ça n'est pas. Alors effectivement, quand c'est pendant, on n'est pas du tout dans cette expression d'un saut comme ça émotionnel qui tout d'un coup se manifesterait. Donc là, effectivement, je comprends que la question puisse se poser pour lui. Est-ce que je suis pas en train de lui faire du mal ? Est-ce qu'elle est en train de revivre quelque chose de douloureux ? Est-ce que je participe à quelque chose auquel je ne suis pas.
Qui lui fait pas du bien, quoi, finalement, c'est ça, ouais.
Oui. Alors après, pourquoi a-t-elle besoin de dire que ce sont des
larmes
de
joie. Larmes de
joie. Je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a la solution à cela. Peut-être
parce que pendant,
ne peut
c'est
pas...
quoi ? C'est les nerfs qui lâchent ? C'est le lâcher-prise qui
oui,
fait
y a,
que...
Oui, il y a un lâcher-prise, bien sûr, mais pour que ce soit aussi fort, dans un temps où même s'il y a du lâcher-prise, ce n'est pas le lâcher-prise de l'orgasme, ce n'est pas le moment où là, vraiment, les vannes se libèrent. Ça pose quand même la question de ce qui est à l'œuvre pour elle. Alors, elle veut l'entendre comme des larmes de joie. Peut-être a-t-elle besoin de le vendre ainsi pour assurer son partenaire. Et ça fait partie de son intimité. On ne peut pas toujours dire ce qui se passe en nous. Et parfois, on protège l'autre tant qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe pour soi.
Jimmy ?
Est-ce que ça pourrait être dû de façon inconsciente à une forme de culpabilité liée à une éducation religieuse parfois stricte ? Ou pire encore, un passé d'abus sexuel ou absolument pas ?
Ça peut être tout ça, effectivement. Ça peut être plein de douleurs parce qu'il s'est passé des choses et ça réveille les choses qui se sont passées en soi. Ou la peur de ce qu'on est en train d'agir et qui renvoie ce qu'on a vu ou ce qu'on a désiré et qui n'était pas acceptable au nom d'une culture, en effet.
Alors les pleurs pendant les rapports sexuels, vous avez expliqué qu'effectivement ça peut cacher quelque chose d'un peu plus grave, un traumatisme ou quelque chose comme ça, mais le pleur dont vous parliez tout à l'heure, les pleurs vraiment après l'orgasme, presque de soulagement, de lâcher prise, qui peuvent être quelque chose, un éclat de rire aussi, ça peut durer très longtemps quelqu'un qui pleure comme ça ou c'est juste, faut pas s'étonner si ça dure des minutes et des minutes ou si c'est rapide ?
Généralement ça dure pas très longtemps, sauf si évidemment c'est quelque chose de très émotionnel sur quelque chose de très traumatique, hein, donc ça c'est encore autre chose, mais en tout cas c'est vraiment comme une femme qui serait fontaine, et bien tout d'un coup elle est fontaine, mais au niveau des yeux, c'est peut-être tout autre chose.
Je ne sais pas qui a une préférence pour quoi, en tout cas, ça peut être un peu perturbant pour le compagnon. Il
bien
peut se sentir
coupable. Timmy, il ne le sent pas, la femme qui
non,
pleure,
vrai,
ça ne lui plaît pas.
C'est perturbant, je ne sais pas comment peut réagir justement ce jeune homme.
Bah, c'est sûr, parce que de toute façon, déjà en temps habituel, quand une femme pleure, les hommes sont très perturbés parce qu'ils voudraient, par exemple, en les prenant dans les bras, qu'elles cessent de pleurer, persuadées que leurs bras virils soient de tout réconfort. Et en réalité, être dans les bras de l'homme viril, justement, permet de lâcher prise un peu plus. Et du coup, les pleurs, ils vont de plus belle. Donc déjà, les hommes sont très perturbés parce que quand ils ressentent ça...
Ils ne savent plus quoi faire.
Ils lâchent et ils s'en vont.
Alors après, un acte sexuel,
voilà.
Toujours le malaise. Hein.
Jimmy, content que ça ne lui soit jamais arrivé. arriver. Hein.
Sans commentaire, mais voilà, c'est ça. Non, mais
voilà. Voilà, donc c'est, je crois qu'il faut que effectivement une femme soit assez au clair avec elle-même pour pouvoir dire, rassurer, et même si ça devait être dû à la résurgence de quelque chose de traumatisant, qu'elle puisse dire combien c'est la résurgence et que c'est une occasion d'aller régler cela. Et donc, elle en remercie et non pas qu'il a agi d'un quelconque traumatisme.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et donc, à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans son rendez-vous, une émission pour tous les parents. Vous allez connaître toutes les astuces pour entretenir de bonnes relations avec vos ados. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour, Mathieu.
Bonjour Mélanie, aujourd'hui j'ai choisi tout simplement de me tirer une balle dans le pied en accueillant Frédéric Becbédé, l'écrivain qui dans son dernier livre dézingue les émissions d'infotainment où l'info se mélange à l'humour. Petit travail d'autocritique en perspective cet après-midi.
Beau programme, merci beaucoup Mathieu, je vous souhaite une bonne émission et vous, restez sur Europe 1.